Bonjour et bienvenue dans Encore heureux. Comment tout peut s'effondrer est un livre de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens, écrit en 2015. Pablo Servigne est ingénieur agronome et docteur en biologie, spécialiste des questions d'effondrement, de transition, d'agroécologie et des mécanismes de l'entraide. Raphaël Stevens est éco-conseiller, expert en résilience des systèmes socio-écologiques. Crise, catastrophe, effondrement, déclin. L'apocalypse se lit en filigrane des nouvelles quotidiennes du monde. Alors que certaines catastrophes sont bien réelles et nourrissent le besoin d'actualité des journaux, accidents d'avion, ouragans, inondations, déclin des abeilles, chocs boursiers ou guerres, il est très difficile de dire que notre société va droit dans le mur, d'annoncer une crise planétaire globale ou de constater une sixième extinction de masse des espèces. Il est très difficile de parler explicitement de grandes catastrophes sans passer pour catastrophiste. Tout le monde, par exemple, a su que le GIEC avait publié un nouveau rapport sur l'évolution du climat en 2014. Mais a-t-on vu un réel débat sur ces nouveaux scénarios climatiques et sur leur implication en termes de changement social? Non, bien sûr. Trop catastrophiste. Peut-être sommes-nous là des mauvaises nouvelles? D'ailleurs, n'y a-t-il pas toujours eu des menaces de fin du monde? Envisager l'avenir sous la forme du pire n'est-il pas un phénomène typiquement européen ou occidental? Le catastrophisme n'est-il pas un nouvel opium du peuple, distillé par des ayatollahs écolos et des scientifiques en mal de financement à Londres, donc françaises et français? Encore un effort et nous sortirons de la crise. Peut-être au contraire, ne savons-nous pas parler des catastrophes, des vraies, celles qui durent, celles qui ne correspondent pas au rythme de l'actualité? Car il faut bien le constater, nous sommes confrontés à de sérieux problèmes environnementaux, énergétiques, climatiques, géopolitiques, sociaux et économiques, qui ont aujourd'hui franchi des points de non-retour. Peu de gens le disent, mais toutes ces crises sont interconnectées, s'influencent et se nourrissent. Nous disposons aujourd'hui d'un immense faisceau de preuves et d'indices qui suggèrent que nous faisons face à des instabilités systémiques croissantes, qui menacent sérieusement la capacité de certaines populations humaines, voire des humains dans leur ensemble, à se maintenir dans un environnement viable. Alors, effondrement ? Il ne s'agit pas de la fin du monde, ni de l'apocalypse. Il ne s'agit pas non plus d'une simple crise dont on sort indemne, ni d'une catastrophe ponctuelle que l'on oublie après quelques mois, comme un tsunami ou une attaque terroriste. Un effondrement est le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc., ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Il s'agit donc bien d'un processus à grande échelle irréversible, comme la fin du monde, certes, sauf que ce n'est pas la fin. La suite s'annonce longue et il faudra la vivre avec une certitude. Nous n'avons pas les moyens de savoir de quoi elle sera faite. Par contre, si nos besoins de base sont touchés, alors on imagine aisément que la situation pourrait devenir incommensurablement catastrophique. Mais jusqu'où? Qui est concerné? Les pays les plus pauvres? La France? L'Europe? L'ensemble des pays riches? Le monde industrialisé? La civilisation occidentale? L'ensemble de l'humanité? Ou même, comme certains scientifiques l'annoncent, la grande majorité des espèces vivantes? Il n'y a pas de réponse claire à ces questions. Mais une chose est certaine, aucune de ces possibilités n'est à exclure. Les crises, entre guillemets, que nous subissons touchent toutes ces catégories. Par exemple, la fin du pétrole concerne l'ensemble du monde industrialisé, mais pas les petites sociétés paysannes traditionnelles oubliées de la mondialisation. Les changements climatiques, en revanche, menacent l'ensemble des humains, ainsi qu'une bonne partie des espèces vivantes. Les publications scientifiques qui envisagent des évolutions catastrophiques globales et une possibilité croissante d'effondrement se font de plus en plus nombreuses et étayées. Les conséquences des changements environnementaux planétaires, que l'on estimait plausibles pour la seconde moitié du XXIe siècle, se manifestent aujourd'hui très concrètement, à la lumière de chiffres de plus en plus précis et accablants. le climat s'emballe, la biodiversité s'effondre, la pollution s'immisce partout et devient persistante, l'économie risque un arrêt cardiaque à chaque instant, les tensions sociales et géopolitiques se multiplient, etc. Il n'est plus rare de voir des décideurs au plus haut niveau et des rapports officiels de grandes institutions, Banque mondiale, armée, GIEC, banque d'affaires, ONG, évoquer la possibilité d'un effondrement ou de ce que le prince Charles appelle un acte de suicide à grande échelle. Plus largement, l'Anthropocène est le nom donné à cette nouvelle époque géologique qui caractérise notre présent. Nous, les humains, sommes sortis de l'Holocène, une époque d'une remarquable stabilité climatique qui a duré environ 12 000 ans et qui a permis l'émergence de l'agriculture et des civilisations. Depuis quelques décennies, les humains, en tout cas une bonne partie, en nombre croissant, sont devenus capables de bouleverser les grands cycles biogéochimiques du système Terre, créant ainsi une nouvelle époque de changements profonds et imprévisibles. Cependant, ces constats et ces chiffres sont froids. En quoi cela touche-t-il notre quotidien? Ne sentez-vous pas qu'il y a comme un énorme vide à combler, un trait d'union à faire entre ces grandes déclarations scientifiques rigoureuses et globales et la vie de tous les jours qui se perd dans les détails, le fouillis des imprévus et la chaleur des émotions? C'est précisément ce vide que tente de combler ce livre, faire le lien entre l'Anthropocène et votre estomac. Pour cela, nous avons choisi la notion d'effondrement, car elle permet de jouer sur plusieurs tableaux, c'est-à-dire de traiter aussi bien des taux de déclin de biodiversité que des émotions liées aux catastrophes, ou de discuter de risques de famine. Dans l'espace médiatique et intellectuel, la question de l'effondrement n'est pas abordée sérieusement. Le fameux bug de l'an 2000, puis l'événement Maya du 21 décembre 2012 ont évincé la possibilité de toute argumentation sérieuse et factuelle. Évoquer un effondrement en public équivaut à annoncer l'apocalypse, donc à se voir renvoyé à la case bien délimitée des croyants et des irrationnels qui ont existé de tout temps. Point barre, sujet suivant. Ce processus de bannissement automatique, qui pour le coup apparaît vraiment irrationnel, a laissé le débat public dans un tel état de délabrement intellectuel qu'il n'est plus possible de s'exprimer que par deux postures caricaturales, qui frisent souvent le ridicule. D'une part, on subit des discours apocalyptiques, survivalistes ou pseudo-maya, et d'autre part, on endure les dénégations progressistes des Luc Ferry, Claude Allègre et autres Pascal Bruckner. Les deux postures, toutes deux frénétiques et crispées autour d'un mythe, celui de l'apocalypse versus celui du progrès. Ces postures ont en commun la phobie du débat posé et respectueux, ce qui a pour effet de renforcer l'attitude de déni collectif décomplexé qui caractérise si bien notre époque.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore Heureux.
Naissance de la collapsologie. Malgré la grande qualité de certaines réflexions philosophiques, le débat sur l'effondrement pêche par l'absence d'arguments factuels. On reste sur le terrain de l'imaginaire ou de la philosophie, c'est-à-dire essentiellement hors sol. Les livres traitant d'effondrement sont en général cloisonnés à un angle de vue ou à une discipline, archéologie, économie, écologie, etc. Et ceux qui ont une intention systémique sont lacunaires. Effondrement, par exemple, le best-seller de Jared Diamond, se contente d'archéologie, d'écologie et de biogéographie des civilisations anciennes. Il n'aborde pas certaines questions essentielles de la situation actuelle. Quant aux livres à succès, il traite habituellement la question par la posture survivaliste. Comment fabriquer son arc et ses flèches, ou obtenir de l'eau potable dans un monde à feu et à sang, en stimulant chez le lecteur le même frisson que celui qu'il ressent à la vue d'un film de zombies. Il manque non seulement un véritable état des lieux, ou mieux une analyse systémique de la situation économique et biophysique de la planète, mais surtout une vue d'ensemble de ce à quoi pourrait ressembler un effondrement, de comment il pourrait se déclencher, et de ce qu'il impliquerait en termes psychologiques, sociologiques et politiques pour les générations présentes. Il manque une véritable science appliquée et transdisciplinaire de l'effondrement. Les questions qui émergent à la seule allusion de ce mot, effondrement, sont nombreuses. Que savons-nous de l'état global de notre Terre, de l'état de notre civilisation? Un effondrement des cours de la bourse est-il comparable à un effondrement de la biodiversité? La conjonction et la pérennisation des crises peuvent-elles réellement entraîner notre civilisation dans un tourbillon irréversible? Jusqu'où tout cela peut-il aller? En combien de temps? Pourra-t-on maintenir le geste démocratique? Est-il possible de vivre un effondrement civilisé, entre guillemets, plus ou moins pacifiquement? L'issue sera-t-elle forcément malheureuse? Plonger au cœur de ce mot, effondrement, comprendre ses subtilités et ses nuances, discerner les faits des fantasmes, est l'un des objectifs de la collapsologie. Qu'il s'agisse de la civilisation maya, de l'Empire romain, ou plus récemment de l'URSS, l'histoire nous montre qu'il existe divers degrés d'effondrement et que même s'il y a des constantes, chaque cas est unique. De plus, le monde n'est pas uniforme. La question des relations Nord-Sud sera à reconsidérer sous un nouvel angle. Un Américain moyen consomme beaucoup plus de ressources et d'énergie qu'un Africain moyen. Pourtant, les conséquences du réchauffement climatique seront bien pires dans les pays proches de l'équateur. Ceux, précisément, qui ont le moins contribué aux émissions de gaz à effet de serre. Attention, sujet sensible. Le sujet de l'effondrement est un sujet toxique qui vous atteint au plus profond de votre être. C'est un énorme choc qui désingue les rêves. Au cours de ces années de recherche, nous avons été submergés par des vagues d'anxiété, de colère et de profonde tristesse, avant de ressentir très progressivement une certaine acceptation, et même parfois de l'espoir et de la joie. Nous avons pu relier ces émotions aux étapes d'un deuil, le deuil d'une vision de l'avenir. En effet, commencer à comprendre puis à croire en la possibilité d'un effondrement revient finalement à renoncer à l'avenir que nous nous étions imaginé. C'est donc se voir amputé d'espoir, de rêves et d'attentes que nous avions forgés pour nous depuis la plus tendre enfance ou que nous avions pour nos enfants. Accepter la possibilité d'un effondrement, c'est accepter de voir mourir un avenir qui nous était cher et qui nous rassurait, aussi irrationnel soit-il. Nous avons également fait la désagréable expérience de voir la colère d'un proche se projeter et se cristalliser sur nous. C'est un phénomène bien connu. Pour faire disparaître la mauvaise nouvelle, on préfère tuer le messager, les Cassandres et les lanceurs d'alerte. Discutons d'effondrement, mais calmement. Certes, la possibilité d'un effondrement ferme des avenirs qui nous sont chers et c'est violent, mais il en ouvre une infinité d'autres, dont certains étonnamment rieurs. Tout l'enjeu est donc d'apprivoiser ces nouveaux avenirs et de les rendre vivables. Dans nos premières interventions publiques, nous prenions soin de n'aborder que les chiffres et les faits pour rester les plus objectifs possibles. Chaque fois, les émotions du public nous surprenaient. Plus les faits étaient clairement exposés, plus les émotions étaient fortes. Nous pensions parler à la tête et nous touchions le cœur. Tristesse, pleurs, angoisse, ressentiment ou effusion de colère émanaient fréquemment du public. Notre discours mettait des mots sur des intuitions que beaucoup de gens avaient déjà, et il touchait profondément. En retour, ces réactions faisaient écho à nos propres sentiments, que nous avions tenté d'occulter. Après les conférences, les élans de gratitude et d'enthousiasme furent plus nombreux et surtout plus puissants. Cela nous a convaincus non seulement qu'il fallait ajouter à notre discours froid et objectif la chaleur de la subjectivité, en laissant une place importante aux émotions dans ce chantier, mais aussi que nous avions beaucoup à apprendre des découvertes des sciences du comportement sur le déni, le deuil, le storytelling ou tout autre thème qui pouvait lier psyché et effondrement. Un fossé s'est parfois creusé entre nous et des proches qui conservaient et défendaient un imaginaire de continuité et de progrès linéaire. Au fil des temps, nous nous sommes clairement éloignés de la doxa, c'est-à-dire de l'opinion générale qui donne un sens commun aux nouvelles du monde. Faites l'expérience, écoutez les informations avec cette perspective et vous verrez, cela n'a rien à voir. C'est une sensation étrange que de faire partie de ce monde, plus que jamais, mais d'être coupé de l'image dominante que les autres s'en font. Cela nous questionne souvent sur la pertinence de nos travaux. Serions-nous devenus fous ou sectaires ? Pas forcément, car d'une part le dialogue est toujours possible et de l'autre, on ne peut ignorer le fait que nous sommes loin d'être seuls. Le nombre de collapsologues, dont, étrangement, de nombreux ingénieurs et chercheurs, et de personnes sensibilisées à cette thématique, s'agrandit, comme un mouvement qui prend conscience de lui-même, un réseau qui se connecte et se densifie. Dans de nombreux pays, des experts économiques, scientifiques et militaires, ainsi que certains mouvements politiques, n'hésitent plus à aborder explicitement des scénarios d'effondrement. La blogosphère mondiale, quoique principalement anglophone, est très active. En France, l'Institut Momentum, avec Yves Cochet, a fait un travail pionnier dans cette direction, et nous lui devons beaucoup. Il est désormais difficile d'ignorer l'effondrement qui vient. On écoute Jarvis Cocker, This is gonna hurt.
This is gonna hurt. This is gonna slay you. This is gonna leave a mark. It's gonna tear you apart. It's gonna make your eyes water. It's a major, major trauma. Oh yeah, this is gonna hurt. This is gonna hurt. This is gonna touch you. This is gonna bruise. Bruise you and confuse you. This is really gonna smart. This is gonna break your heart. But you got to keep going. Ignore the cracks that are showing. Some things you can't fix. No matter how hard you work at it, yeah. And some things just get worse. And some things really, really hurt. And this is gonna hurt. Yes, this is gonna hurt. Yeah, this.
L'accélération du véhicule. Prenons la métaphore de la voiture. Au début de l'ère industrielle, elle apparaît. Quelques pays seulement montent dedans, démarrent, puis sont rejoints par d'autres tout au long du siècle. L'ensemble de ces pays embarqués, que nous appellerons la civilisation industrielle, a pris une trajectoire bien particulière. Après un démarrage lent et progressif, la voiture prend de la vitesse à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle entame une ascension époustouflante, appelée la grande accélération. Aujourd'hui, après quelques signes de surchauffe et de tout sautement du moteur, l'aiguille de la vitesse se met à vaciller. Va-t-elle continuer à grimper? Va-t-elle se stabiliser? Va-t-elle redescendre? Un monde d'exponentiel. Nous avons beau l'avoir vu à l'école, nous ne sommes pas habitués à nous représenter une croissance exponentielle. Bien sûr, on voit une courbe qui part vers le haut, une croissance. Mais quelle croissance? Alors que l'esprit humain s'imagine aisément une croissance arithmétique, par exemple un cheveu qui grandit d'un centimètre par mois, il peine à se représenter une exponentielle. Si vous pliez en deux un grand morceau de tissu, après quatre pliages, son épaisseur mesurera environ 1 cm. Si vous pouvez le plier en deux encore 29 fois, l'épaisseur atteindrait 5400 km, soit la distance Paris-Dubaï. Quelques pliages de plus suffiraient à dépasser la distance Terre-Lune. Un PIB, par exemple celui de la Chine, qui croît de 7% par an, représente une activité économique qui double tous les 10 ans, donc qui quadruple en 20 ans. Après 50 ans, nous avons affaire à un volume de 32 économies chinoises, soit aux valeurs actuelles l'équivalent de près de 4 économies mondiales supplémentaires. Les exemples ne manquent pas pour décrire l'incroyable comportement de la courbe exponentielle. De l'équation du nénuphar, chère à Albert Jacquard, à l'échiquier dont on remplirait chaque case avec un nombre de grains de riz multiplié par deux, tous montrent que cette dynamique est très surprenante, voire contre-intuitive. Lorsque les effets de cette croissance deviennent visibles, il est souvent trop tard. En mathématiques, une fonction exponentielle monte jusqu'au ciel. Dans le monde réel, sur Terre, il y a un plafond bien avant. En écologie, ce plafond est appelé la capacité de charge d'un écosystème. Il y a en général trois manières pour un système de réagir à une exponentielle. Prenons l'exemple d'une population de lapins qui croît sur une prairie. Soit la population se stabilise doucement avant le plafond, elle ne croît donc plus, mais trouve un équilibre avec le milieu. Soit la population dépasse le seuil maximal que peut supporter la prairie, puis se stabilise dans une oscillation qui dégrade légèrement la prairie. Soit elle transperce le plafond et continue d'accélérer, ce qui mène à un effondrement de la prairie suivi de la population de lapins. L'accélération totale. De nombreux paramètres de nos sociétés montrent une allure exponentielle. La population, le PIB, la consommation d'eau et d'énergie, l'utilisation de fertilisants, la production de moteurs ou de téléphones, le tourisme, la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre, le nombre d'inondations, les dégâts causés aux écosystèmes, la destruction des forêts, le taux d'extinction des espèces, etc. La liste est sans fin. Que s'est-il passé? Pourquoi cet emballement? Certains spécialistes de l'Anthropocène datent le début de cette époque au milieu du XIXe siècle. L'âge de la machine thermique et des technosciences a remplacé celui des sociétés agraires et artisanales. L'apparition du transport rapide et bon marché a ouvert les routes commerciales et effacé les distances. Dans le monde industrialisé, les cadences infernales de l'automatisation des chaînes de production se sont généralisées et progressivement, les niveaux de confort matériel ont globalement augmenté. Les progrès décisifs en matière d'hygiène publique, d'alimentation et de médecine ont augmenté la durée de vie et réduit considérablement les taux de mortalité. La population mondiale, qui doublait environ tous les 1000 ans pendant les 8 derniers millénaires, s'est mise à doubler en un siècle seulement. De 1 milliard d'individus en 1830, nous sommes passés à 2 milliards en 1930. Puis c'est l'accélération. Il ne faut que 40 ans pour que la population double une fois de plus. 4 milliards en 1970. 7 milliards aujourd'hui. En l'espace d'une vie, une personne née dans les années 1930 a donc vu la population passer de 2 milliards à 7 milliards. Au cours du XXe siècle, la consommation d'énergie a été multipliée par 10, l'extraction de minéraux industriels par 27 et celle de matériaux de construction par 34. L'échelle et la vitesse des changements que nous provoquons sont sans précédent dans l'histoire.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore heureux.
Alors, où sont les limites? La grande question de notre époque est donc de savoir où se trouve le plafond. Avons-nous les capacités de continuer à accélérer? Y a-t-il une limite ou plusieurs à notre croissance exponentielle? Et si oui, combien de temps nous reste-t-il avant un effondrement? Simple, voire simpliste, la métaphore de la voiture a le mérite de distinguer clairement les différents problèmes, appelons-les crises, auxquelles nous sommes confrontés. Elle suggère qu'il existe deux types de limites. Les limites et les frontières. Les limites de notre civilisation sont imposées par les quantités de ressources dites « stock », par définition non renouvelables, énergie fossile et minerais, et les ressources flux, eau, bois, aliments, qui sont renouvelables, mais que nous épuisons à un rythme bien trop soutenu pour qu'elles aient le temps de se régénérer. Le moteur a beau être toujours plus performant, il arrive un moment où il ne peut plus fonctionner, faute de carburant. Les frontières de notre civilisation représentent des seuils à ne pas franchir sous peine de déstabiliser et de détruire les systèmes qui maintiennent notre civilisation en vie. Le climat, les grands cycles du système Terre, les écosystèmes, ce qui inclut tous les êtres vivants non humains. Quant à la voiture elle-même, elle s'est bien sûr perfectionnée au fil des décennies. Elle est devenue bien plus spacieuse, moderne et confortable. Mais à quel prix ? Non seulement il est impossible de ralentir ou de tourner, la pédale d'accélérateur est fixée au plancher et la direction s'est bloquée, mais plus gênant, l'habitacle est devenu extrêmement fragile. La voiture, c'est notre société, notre civilisation thermo-industrielle. Nous sommes embarqués dedans. GPS programmé sur une destination ensoleillée. Aucune pause n'est prévue. Assis confortablement dans l'habitacle, nous oublions la vitesse. Nous ignorons les êtres vivants écrasés au passage, l'énergie faramineuse qui est dépensée et la quantité de gaz d'échappement que nous laissons derrière nous. Vous le savez bien, une fois sur l'autoroute, seul compte l'heure d'arrivée, la température de la clim et la qualité de l'émission de radio. On écoute Aurélien Barraud, astrophysicien et philosophe.
Vous êtes séduit par ce genre de stratégie, c'est-à-dire arriver à regrouper 10-15% de pionniers, mais surtout changer la manière de voir, la manière de compter, la manière de mettre en théorie les choses ?
Oui, changer, oui, mais il faut quand même que nous prenions la mesure de l'enjeu. J'ai bien compris que vous vouliez que nous attelions aux solutions et non pas aux constats. Mais la révolution qui est nécessaire ne peut être comprise qu'au regard précis du constat. Donnez-moi 30 secondes. Deux informations très récentes qui sont passées sous le radar médiatique, qui sont peut-être les plus importantes de ce siècle. Nous venons d'apprendre que dans la branche du vivant, qui comportait et de loin le plus d'individus, et de loin le plus d'espèces, la biomasse a chuté de 67% en une décennie. C'est une catastrophe planétaire.
C'est surtout les insectes ? C'est surtout la part des insectes ?
C'est beaucoup plus que les insectes, c'est tous les arthropodes, c'est énorme. Le second point fondamental, c'est que nous venons d'apprendre il y a quelques jours que la moitié des points dits de basculement irréparable sont déjà atteints beaucoup plus rapidement que ce qui avait été prédit dans les pires scénarios des scientifiques. Donc nous sommes littéralement dans un état d'extermination massive de la vie sur Terre. Nous sommes en guerre totale.
Extinction, rébellion, si j'ose dire.
Oui, mais nous sommes à la fois, si vous voulez, les auteurs de ce massacre et une partie des victimes de ce massacre. Et pour être tout à fait honnête et le dire sans être trop vindicatif, je crois quand même que l'essentiel de ce qui est proposé aujourd'hui relève de la bouffonnerie. Voilà. Nous sommes en conflit nucléaire et nous affûtons nos lance-pierres. Ça peut effectivement amuser les enfants pendant quelques soirées, mais ça ne va pas faire illusion longtemps. Et permettez-moi d'être parfaitement clair. Si vous voulez, je crois qu'il faut absolument, c'est le plus urgent au niveau de l'action concrète, comme vous le voulez, que nous sortions de l'état d'hébétude, pour ne pas dire d'aliénation, qui est actuellement le nôtre. Si vous voulez, le verrouillage systémique a fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens qui préfèrent leur enfant à leur argent passent pour des radicalisés. Les gens qui préfèrent sauver la vie plutôt qu'un point de croissance passe pour des doudingues. Alors, je pense que la plupart des gens présents dans cette salle fréquentent beaucoup d'économistes et se disent « Oui, mais il y a des réalités économiques, si vous voulez. » Mais moi, je suis physicien et je peux vous assurer que les réalités économiques, elles sont contractuelles. Les réalités biologiques, c'est-à-dire les gens qui meurent, les réalités physiques, c'est-à-dire le crash du système planétaire qui est actuellement en train d'avoir lieu, ça, ce sont des réalités non contractuelles. Elles se rappellent à nous et il va être temps d'être un peu sérieux.
Aurélien Barraud, est-ce que vous pensez qu'on peut changer de modèle profondément, rapidement, radicalement, en évitant la décroissance, c'est-à-dire en continuant à préserver pour les humains de demain un développement économique et social et plus de confort?
Ah non, mais la croissance, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est le progrès, c'est le bien-vivre, c'est l'amour, c'est la créativité. La décroissance, je l'appelle de mes voeux, elle ne doit pas faire peur. Le PIB, on s'en fiche complètement, ce n'est pas ça qui est important dans nos vies. Non, ça, je m'inscris parfaitement en faux par rapport à ce dogme qui relève de la pensée magique qui voudrait que la croissance soit quelque chose d'indépassable, de fondamentalement bon pour nos vies. Aujourd'hui, la corrélation corrélation entre la croissance du PIB et la dévastation écologique est un fait scientifique acté. Donc il va falloir qu'on revoie nos logiciels. Et je m'inscris un peu en faux par rapport à mon voisin qui me disait, moi, bon, je suis un peu plus âgé que vous, et donc j'entends tout ça depuis 40 ans.
La sagesse.
Bah oui, mais précisément, en 40 ans, les populations d'animaux sauvages ont disparu de 60%. C'est une catastrophe. Ce n'est pas une peur de l'avenir, c'est un bilan du passé. Et quand vous dites qu'il faut être précis, c'est-à-dire effectivement ne pas tout mélanger parce que ce sont des questions complexes, je suis on ne peut plus d'accord, mais je ne comprends même pas pourquoi vous la rabattez sur le problème du carbone. Ce que je viens d'évoquer tout à l'heure n'a strictement rien à voir avec le réchauffement climatique. Ce n'est pas le réchauffement climatique qui, à ce stade, est responsable de l'extinction de la vie sur Terre. Pas du tout. Ce sont les pesticides, c'est la surpêche, c'est la disparition des espaces de vie. Donc manifestement, nous n'avons dans cette salle de personnes concernées pas encore même compris quel était l'enjeu du problème. Donc je crois vraiment...
En tout cas, on n'arrive pas à relier entre eux les différents enjeux.
Mais c'est notre manière d'habiter l'espace, l'enjeu. Si vous voulez, le point maintenant, c'est pas de faire une source d'énergie propre parce qu'avec un bulldozer qui fonctionne à l'énergie solaire, on peut raser la forêt amazonienne. On n'aura pas émis de CO2, mais on aura quand même rasé la forêt. Ce qu'il faut maintenant, c'est comprendre que la vie vaut pour elle-même, c'est de cesser d'instrumentaliser et de financiariser des valeurs qui sont fondamentalement hétérogène à ces atrophies en quelque sorte ou à ces réductions. Et ce qui est extraordinaire quand même, c'est que dans le passé, on aurait dû le faire pour éviter le colonialisme, pour éviter des affronts sociaux absolument extraordinaires. On n'a pas su le faire parce que les dominants, entre guillemets, les puissants n'avaient aucun intérêt à le faire. Mais aujourd'hui, même ceux qui ont les rênes ont intérêt à le faire parce que cette activité de surprédation devient suicidaire. Donc si même cette fois nous échouons, ça relève quand même littéralement d'une sorte de folie humaine.
Chers auditeurs, merci. Pour aller plus loin, je vous invite, je vous conseille d'écouter les nombreuses conférences en ligne de l'astrophysicien, philosophe et poète que nous venons d'écouter, Aurélien Barreau, ainsi que de l'expert des énergies, Jean-Marc Jancovici, et du spécialiste des risques systémiques, Arthur Keller. À très bientôt sur Radio B.